Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale, direction Saumur et le Saumurois. Ce matin, Saumur, vous apprendrez qu'on trouve un peu de la Bastille grâce à un révolutionnaire du coin. Explication dans un instant. Quant à elle, elle a révolutionné la mode, elle a fait naître celle du bronzage. Elle était née à Saumur. De qui s'agit-il? La réponse dans RTL vous régale. Et puis des signes étranges, des signes indiens, dans une cave troglodyte. Ah oui, on vous racontera aussi. Restez avec nous. Alors entre Saumur Champigny, pâté aux prunes et crémé d'Anjou, laissez-moi vous présenter les deux épicuriens qui font route avec nous comme chaque semaine. À l'image du Saumur Champigny, elle peut parfois se présenter dans une robe rubis aux reflets violets. Comme lui, elle est brillante et chatoyante. Au nez, c'est un régal, avec ses arômes floraux. C'est sûr, c'est un grand millésime. C'est une belle Mondo, cuvée Louana.
Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est sûr, je suis millésime.
Oui, je viens de vous mettre en carafe, là. Quant à lui, il est aussi franc que le cabernet et peut du coup paraître à l'image du cadre noir de Saumur un peu cavalier. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Je suis content de vous retrouver les amis. C'est d'ailleurs avec une rigueur toute militaire que mes deux camarades s'affronteront tout à l'heure en habit d'apparat dans le célèbre défi frigo qui a bâti leur réputation. Pour jouer avec nous, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. Ils auront 1 minute 30 pour vous proposer une recette originale sur la base de ce produit. Vous jouez au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. J'insiste sur le fait que pour vos sélections défi frigo, ça se passe pendant la durée de cette émission, ni avant ni après. Et je vous souhaite bonne chance. On vous attend au standard. À gagner ce matin, tenez-vous bien, un week-end gastronomique pour deux personnes. Je vous en dirai plus dans quelques minutes. Et dans la playlist de cette virée déconfinée, Sia. Sia avec Courage to Change, mais aussi les frangines. Devenir quelqu'un, le tout nouveau titre des Frangines, c'est le premier extrait de leur deuxième album, prévu d'ici l'été. Et pour ouvrir, RTL vous régale, le vaccin antidéprime absolu de votre début de week-end. Eh bien, ouvrons les fenêtres, respirons et régalons-nous. Direction Saumur et le Saumurois, avec pour démarrer dans la playlist, Florent Pagny, s'il vous plaît, là où je t'emmènerai. Je vous souhaite une très belle matinée.
Regarde là où les bateaux quittent la mer, là où l'horizon est tellement plus clair. Sous la belle étoile, celle qui te dit que la vie ici ne sera jamais rien que ton ami. C'est au fond de tes yeux, là où le monde effleure tes rêves, là où le bonheur n'est plus un mystère. C'est là que je t'emmènerai sur la route. Et si le soleil le savait, mais j'en doute, il vient. Je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait pour nous éclairer. Nous longerons la mer, nos vies couleront sans un hiver, comme un matin d'été, un courant d'air. Chaque fois que tu auras besoin de moi, regarde là-bas, c'est là que je t'emmènerai sur la route. Et le soleil, s'il le savait, mais j'en doute, il viendrait là où je t'emmènerai.
Là où je t'emmènerai, Florent Pagny, de la musique, du patrimoine, des artisans, des recettes. RTL vous régale, la filière qualité d'RTL. Nous revenons dans un instant. A tout de suite, il est
10h20. Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. Vous êtes bien sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Allez, merci d'embarquer avec nous ce matin. Direction Saumur, île saumurois, où il se passe des choses étonnantes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On aurait trouvé une pierre de la Bastille à Saumur. Explication, alors, Jean-Sébastien.
Non, on n'a pas trouvé, on l'a apporté.
On l'a apporté, oui, c'est
l'hôtel différent. De ville de Saumur date du début du XVIe. Il est de style Renaissance, mais il reste quand même quelques tourelles et quelques machicoulis qui lui viennent d'une époque médiévale. Et la pierre qui nous intéresse, elle est toute différente. C'est une pierre de la Bastille, rapportée par un jeune saumurois, Aubin Bonnemère, qui prit part à l'assaut du 14 juillet 1789. Et cette pierre a été reçue solennellement par la municipalité le 5 décembre 1790. Et on l'a mise dans le mur de l'hôtel de ville en 1880, quand la date du 14 juillet a été proclamée fête nationale.
D'accord. Et le château de Saumur, lui, a retrouvé un épi de fêtage semblable à ce qu'il était à l'origine, paraît-il.
Alors, un épi de fêtage, c'est destiné à l'origine à assurer l'étanchéité d'une charpente. C'est des très beaux ouvrages. Aujourd'hui, on a des petits chats, des lapins, ça représente un peu tout. C'est très joli. Mais c'est un symbole de pouvoir également à l'époque médiévale et puis plus tard. Sur le château de Saumur, il y en a quatre qui sont décrites dans les très riches heures du duc de Berry. Cette représentation du 15e évoque avec une précision millimétrique pratiquement les quatre épis dorés de 12 mètres de haut, de 2 tonnes 4 chacun, recouverts de 15 000 feuilles d'or.
Et en 2015, on a restauré un de ces épis, un ouvrage d'artisanat et de ferronnerie incroyable, qui a nécessité, c'était dur pour moi, qui a nécessité plus de 2500 heures de travail. Et regardons, les artisans ayant travaillé sur ces projets ont laissé sous l'épi le journal du jour, des plans et une bouteille d'absinthe saumuroise en guise de signature pour l'avenir.
On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a pu faire en ferronnerie.
Ferronnerie.
Ah, alors, dans la série des mots imprononçables ou méconnus ou qui comptent triple, qu'est-ce qu'un patenotrier?
Alors, mot qui a été retiré du dictionnaire de l'Académie française en 1935. Hein. Un patenotrier, c'est un fabricant, c'est un marchand de chapelet, en fait. Et Saumur a partagé avec Florence, en Italie, le monopole de la fabrication des chapelets. Il faut imaginer que juste avant la Révolution française, il y avait plus de 1000 personnes à Saumur qui ne faisaient que ça, que des chapelets. Et à la Révolution, dans un élan patriotique, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a brûlé tout le stock.
Mais la fabrication a repris dès le début du 19e. Et il y a encore une petite production de ce qu'on appelle aujourd'hui la bijouterie religieuse.
Je le disais en lançant cette émission, elle était née à Saumur. Elle a popularisé d'abord la mode d'une certaine époque et puis surtout la mode du bronzage. Elle s'appelait
Gabrielle Chanel.
Et ouais.
Et absolument, elle est née à Saumur en 1883. Et c'est grâce à elle si aujourd'hui on bronze. Alors que durant toute l'histoire, le comble du chic, c'était d'avoir la peau la plus blanche possible.
Bah c'est vrai que les peaux bronzées, c'était pour les marins et pour les gens qui travaillaient dehors, les paysans. Et dans les années 30, Coco Chanel est en vacances au bord de la mer du Nord. Et puis, bah, ce qui devait arriver arrive, elle prend un coup de soleil. Du coup, bah, quand elle rentre à Paris, elle a un teint un peu bronzé, un peu hâlé. La presse féminine de l'époque en fait un événement et la mode du bronzage est née.
Absolument. Et les premiers congés payés aussi font un vrai phénomène social qui perdure même si les méfaits du soleil ne sont plus à démontrer lorsqu'on en abuse trop.
Jean-Sébastien, c'est quoi finalement cette histoire d'Indiens dans les environs de Saumur? Oui, c'est ça, vous le tenez bien celui-là. Hein. Il y a des sculptures dans une cave troglodyte avec, dit-on, des figures d'Indiens.
Alors, tout ça a été réalisé dans la deuxième moitié du XVIe siècle, imaginez. Des Indiens au milieu d'autres visages grimaçants, certains aux traits angéliques. Cette caverne, elle se trouve à Denzé sous Douai, à quelques kilomètres à l'ouest de Saumur. Et il y a une histoire locale qui raconte que dans ce coin débarqua autour de 1510 un Indien venu du Brésil. Il fut ramené par un explorateur. Cet Indien n'avait que 15 ans et eh bien, il a une histoire étonnante.
Ouais, il fut l'objet de nombreuses attentions à la cour et quelques années plus tard, il s'est marié avec une angevine et vécu jusqu'à un âge très avancé pour l'époque. Écoutez, peu importe si l'histoire est vraie ou pas, nous, on a envie d'y croire.
On a envie d'y croire, absolument.
C'est explique ces images d'Indiens. En fait.
Ouais, carrément. En parlant de troglodytes, dans les environs de Saumur, oui. Du côté de Douai-la-Fontaine, on trouve des troglos verticaux.
Oui, ce sont des anciennes carrières de Falin. Cette roche née il y a 11 millions d'années de la sédimentation d'une dune de bord de mer, parce qu'en fait la mer était dans le Saumur. Ouais, il n'y a que dans cette roche facile à extraire et sûre, lorsqu'on la creuse, que l'on a créé ces habitations sous terre, mais sous terre verticalement.
Oui, et c'est très passionnant à visiter. Ces espaces qui servaient à la fois à stocker des récoltes, mais qui comportaient aussi des lieux de vie. Tout était ventilé par des cheminées très bien conçues, et c'est aussi pratique que les troglos des coteaux.
On va évidemment évoquer le cadre noir dans cette émission. On aura un invité du cadre noir et pas n'importe lequel tout à l'heure en fin d'émission dans RTL vous régale. Mais est-ce qu'on sait pourquoi le cadre est noir à Saumur? Non mais c'est vrai, on se pose la question quand même, c'est légitime. Alors, ça a un rapport avec les uniformes je pense. Hein.
L'école royale de cavalerie est arrivée dans la cité ligérienne en 1771. Les instructeurs ont vu leur tenue fixée en 1825. Veste noire rehaussée d'or, culotte noire. Et les écuyers, donc les élèves, avaient un uniforme, eux, qui était bleu. On parlait donc des cadres noirs et des cadres bleus. C'est à la fin du 19e que l'école prend le nom de cadre noir. Et puis il a été détaché de l'armée en 1972 et c'est devenu l'école nationale d'équitation. Et aujourd'hui, bah, c'est le cadre noir qui a pour rôle le maintien des traditions équestres françaises, l'instruction de ces traditions et puis la préparation à la compétition au plus haut niveau international.
Et le savoir-faire a été reconnu par l'UNESCO en 2011 au titre du patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est un lieu totalement unique au monde.
Allez, Ancel, on en reparlera tout à l'heure, je vous l'ai dit. Car sur son étalon nerveux, notre belle écuyère Belmondo, crinière blonde, veste noire, se présente sur la piste en Amazon, évidemment, prête à la compétition. Le petit trot de l'arrogance affichant 2 points d'avance dans le défi frigo. Alors, face à elle, c'est une autre école. Nous vous présentons un percheron solide, écuyer nerveux, petit de manche, trépigne, il est déjà dans un bon galop, ne veut pas rester à zéro. Le Grand Prix Frigo, c'est vous qui choisirez le gagnant du jour. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo, ils auront 1 minute 30 pour imaginer une recette originale. Rendez-vous juste avant les infos d'11h. Je vous rappelle que vous allez jouer pour un week-end gastronomique pour 2 personnes. Pour jouer avec nous, facile, par téléphone 3210. Vous nous appelez maintenant par exemple ou par SMS en envoyant le mot « régal » suivi de votre message au 64 900. Ça voltige, c'est RTL vous régale et nous sommes de retour juste après ça. A tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et votre début de week-end se passe avec nous dans RTL vous régale. Nous sommes dans la région de Saumur, le Saumurois, l'Anjou. Ah, la douceur angevine.
C'est Dubélé qui est l'auteur de cette belle formule.
Vous doutez bien que c'était pas de moi.
Hein. Bon, mais vous savez lire au moins. Et nous sommes encore face à une bizarrerie, un nez de la création des départements pendant la Révolution, parce que, effectivement, qui connaît le Maine-et-Loire ? Les habitants de ce département, d'ailleurs, n'ont pas de nom. On parle des Angevins comme des habitants d'Angers et des habitants du Maine-et-Loire. Il n'y a pas de nom particulier, il n'y a pas de gentilé, comme on dit. Alors on se balade entre plaines, bocages, coteaux de tuffeaux, troglodytes, collines de vignobles, avec une invitée au milieu de tout ça, la Loire, qui profite de la moindre faiblesse des rives pour s'étaler, pour prendre ses aises. Et Saumur, c'est une ville qui trouve ses racines il y a bien longtemps. On est en 848. Charles le Chauve donna une villa aux moines de Saint-Florent dont le monastère avait été ruiné par le roi des Bretons qui s'appelait Nominoé. C'est pas facile à porter. Et c'est en 968 qu'apparaît le nom du lieu. Salmurus, qui viendrait de la langue d'oeil voulant dire fortification. La ville devient un haut lieu du protestantisme pratiquement un demi-millénaire plus tard. Nous sommes en 1589. C'est une place de sûreté protestante, devenant même la Genève française. Aujourd'hui, Saumur, c'est une cité qui compose un des plus beaux tableaux qui soit. Balzac l'utilisa pour cadrer Eugénie Grandet et en faire un décor magnifique. Et puis, on l'a dit, c'est la ville natale de Coco Chanel, mais également de Fanny Ardant. Elles ont sans doute parcouru les rues du quartier Saint-Pierre, qui offre nombre de très belles maisons à tourelles, à pans de bois. On peut aussi aller se balader sur le quai Maillot qui aligne les hôtels particuliers qui témoignent de la prospérité économique de la ville et du commerce sur la Loire entre les 16e et 19e siècles. Le château qui couronne un promontoire de tuffeaux au confluent de la Loire et du Touet est un endroit absolument divin. Et puis vous avez, à ne pas manquer, l'église Notre-Dame de Nantilly, une église romane du début du XIIe qui possède des tapisseries des 16e et 17e totalement hallucinantes, merveilles qui sont exposées l'été. Il y a un autre lieu que j'aime beaucoup, c'est le musée des blindés. 200 machines en exposition sur les 900 que compte la collection. C'est une collection qui est née en 1977 de la passion de différents directeurs de l'école d'application de l'arme blindée, de cavalerie, puisque l'arme blindée a remplacé la cavalerie. C'est toute l'histoire du char d'assaut depuis la Première Guerre mondiale et c'est absolument passionnant.
Alors musée pour les jours de pluie quand même, hein. Parce qu'il faut le vendre, c'est un projet, il faut le vendre aux enfants, ça, quand même, le musée des chars d'assaut.
les mômes, ils sont fous de ça.
Ouais, enfin, c'est relatif, hein. Bon, la balade en Anjou, elle se poursuit à Montsoreau.
J'ai perdu votre âme d'enfant.
Bourgade classée plus beau village de France, d'ailleurs, Montsoreau.
Absolument, c'est un très, très bel endroit. Un vrai coup de cœur, à coupler avec Fontevraud, pour son abbaye royale, pour son restaurant, pour les expositions d'art contemporain également qu'il y a là-bas. En temps normal.
Mais qu'est-ce qu'on mange, Louana ? C'est ça qui nous intéresse dans cette émission. Ah, parce que les vieilles pierres, c'est passionnant, mais qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, on mange plein de choses, mais comme on est au bord de la Loire, il y a une tradition incontournable, c'est la friture des petits poissons. Alors, comme les ablettes ou les goujons, j'adore. Alors, ils sont trempés d'abord dans du lait, après on le passe dans la farine, puis on les fait frire. Le bain d'huile, il doit être, on me demande toujours la friture, l'huile, il doit être à combien ? 180-200 degrés. Et puis, on va assaisonner le tout simplement avec du sel, du poivre et du persil. Moi, personnellement, quand je fais cette friture, j'y rajoute toujours un peu de semoule de maïs extra fine pour donner un côté un peu plus croustillant. Autre poisson de la Loire, le cendre. Son goût est très fin, sa chair ferme et délicate. En plus, avec une teneur en graisse assez faible. Il est très facile à cuisiner. La meilleure façon, c'est de le cuire au four entier ou au barbecue. On peut aussi le faire en filet, juste doré à la poêle ou cuit en papillote. Et comme il reste très juteux, on peut aussi se permettre de le faire un peu mijoter dans de la sauce. Pas très longtemps, mais un peu. Personnellement, j'adore le panier avec de la chapelure, avec du thym, des citrons. J'y rajoute des pistaches concassées aussi. Et après, je l'accompagne avec une mayonnaise au safran, voilà. Comme ça, on fait la totale.
Ouais,
la friture,
mal, truc,
de la mayonnaise,
là,
on reste.
J'ai été interpellé parce que vous disiez tout à l'heure que vous rajoutiez toujours un peu de semoule de maïs extra fine pour donner du croustillant à vos fritures. Ouais. C'est ce qu'on appelle la polenta, c'est une espèce
de. Oui, alors on a la polenta, mais on a aussi une semoule encore plus fine que la polenta. Parce que la polenta, d'accord, en général, elle a des grains un peu plus gros.
Parfait. Ce qui est intéressant dans ces recettes, c'est que ça fait appel effectivement aux poissons de rivière et aux poissons de la Loire. Et il faut rendre hommage aux quelques derniers pêcheurs de Loire qui restent, qui continuent à travailler avec Absolument. Passion et à entretenir la ressource halieutique dans ce fleuve qui est le dernier fleuve sauvage de France.
Allez, dans un instant, on vous dira tout sur les produits qu'il faut rapporter d'une balade du côté de Saumur et évidemment, on ne va pas échapper à un petit peu de vin. On en reparle dans quelques minutes pour leur Sia Courage to Change sur RTL, dans RTL vous régale.
I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, we don't have to stay stuck in the wind.
To Change, extrait du nouvel album de Sia, l'album Music, un album qui est également la bande-son du film, du même nom d'ailleurs, le premier de Sia en tant que réalisatrice. Avec Jean-Sébastien Petit-Demange, avec Loana Belmondo, dans un instant nous sommes de retour dans la région de Saumur. Forcément, on va vous parler des produits à rapporter, il y aura du vin, parce que nous sommes dans le vignoble d'Anjou et de Saumur, c'est la troisième région viticole de France. On arrive juste après ceci, à tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Bonne matinée en compagnie d'RTL. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Excellent.
Et c'est comme ça tous les samedis, 10h15, 11h30. RTL vous régale. Les produits à rapporter de notre escale dans le Saumurois, on ne peut pas échapper au vignoble d'Anjou et de Saumur, je le disais, troisième région viticole de France. Jean-Sébastien.
Effectivement, on ne peut pas. C'est plus facile quand c'est ouvert le micro pour parler. 2083 vignerons, 5 coopératives, 45 négociants produisent dans ce vignoble d'Anjou et de Saumur l'équivalent de 179 millions de bouteilles chaque année. C'est des vins. Alors il y a le Chenin, c'est le cépage magique de cette région qui donne les vins blancs les plus superbes qui soient, notamment dans des saumures blancs qui sont absolument suave. Les rouges de Saumur sont plutôt des vins à base de Gamay, de Cabernet Sauvignon. Ils sont en fraîcheur, en fruité. Et puis, il y a cette incroyable histoire du Saumur Champigny. Antoine Cristal était négociant en tissu à Paris. Nous sommes en 1886. Et il décide d'acheter un domaine près de Montsoreau. Alors que les vignes étaient en train de mourir. Hein. Elles mouraient du phylloxéra à l'époque. 20 ans plus tard, son vin était sur la table de la cour d'Angleterre. Le vin, c'était la seule passion de ce célibataire endurci, devenu un des vignerons les plus célèbres de France à cette époque. Et dans un vignoble qui faisait du blanc, il a imposé le rouge, il a inventé ce mot de Champigny, il était l'ami de Clémenceau qui ne manquait pas une occasion de s'arrêter au château de Parnay, où il faisait son vin, Antoine Cristal, lorsque Clémenceau partait ou rentrait de sa Vendée.
Alors dans la série des choses un peu étonnantes, on ne le sait pas forcément, mais les champignons de Paris viennent de là.
Bah alors, non, ils sont arrivés là. Les champignons de Paris viennent de Paris. On a commencé à cultiver des champignons à Paris dans les catacombes et dans les carrières, et ça a commencé sous Louis XIV. Mais il est un fait qui s'appelle le métro, qui a rendu tout cela totalement indésirable. Parce que forcément, si qui dit champignon dit moisissure. Et la moisissure avait pour effet de faire pourrir le bois des métros. Du coup, la plupart des champignonnières qu'il y avait à Paris ont été transférées dans la région de Saumur. Et aujourd'hui, on produit là-bas 85% des champignons de Paris.
Et voilà, vous avez compris que j'avais tuffo.
Ouais, et c'est là, c'est depuis 100 ans que tout ça est cultivé dans les galeries troglodytes. Alors, il y a le champignon de Paris, mais aujourd'hui, il y a d'autres types de champignons comme les pleurotes ou les pieds bleus. Il faut savoir aussi les shiitakes. Ouais. Il y a chaque année, ce sont 12 tonnes de champignons qui sont récoltés. Alors, j'ai fait, moi, la visite d'une champignonnière, hein, le saut au loup, c'est très joli, c'est creusé à flanc de coteau dans la pierre des tuffeaux, justement. La pierre des tuffeaux, en fait, elle sert à garder un taux d'humidité de 80% et une température constante de 13 degrés. Donc, c'est l'idéal pour la pousse des champignons. Et j'ai dégusté une spécialité locale hein, qui s'appelle la galipette. Hein.
Galipette.
Alors, oui, mais non, parce que le champignon. Je vais vous expliquer. Restez calme.
Détendez-vous.
Mais non, le mot. Alors, le champignon, il va être
ça
presque.
Vous met tout en...
Le champignon, écoutez-moi, le champignon de Paris, on va l'oublier sur un mode de terre. On le fait exprès. Donc, le chapeau, il devient alors si gros qu'il se met à faire une roulade sur lui-même. Et donc, c'est la galipette du champignon.
Ah, de là, d'accord.
Voilà. C'est la galipette du champignon. Alors, une fois que le champignon, on cueille la tête du champignon, on va le farcir avec des rillettes, des andouilles, du saumon, des escargots, du fromage des chèvres, tout ce qu'on a comme produit de la région.
Pas tout en même temps.
Non, pas tout en même temps.
D'accord.
Chaque champignon, on met un peu. Et ensuite, ces galipettes, parce que c'est ça la galipette, on va sont cuites dans un four à pain, réchauffées au feu de bois. C'est délicieux. Alors, c'est pas light, parce que le champignon, à la base, c'est light, la galipette, on s'est l'attrape.
C'est de la galipette fourrée, évidemment.
Mais c'est délicieux. Un bonheur.
Voilà, Qu'en est-il du pâté aux prunes? Parce que ça, c'est parfait.
Alors, on est proche de la turte. Ce dessert...
La turte.
C'est moi qui aurais pu dire ça, en fait.
Luana Belmondo, sortez de ce corps. Immédiatement.
C'est un dessert qui est confectionné traditionnellement. Ça déteint, en plus. À base de reine Claude, non dénoyautée. Variété de prunes emblématique hein, de la région angevine. C'est une pâtisserie qui est très populaire dans les pâtisseries de Maine-et-Loire. C'est une tarte qui reste assez méconnue dans les autres régions françaises. C'est vrai qu'on n'en trouve pas forcément, mais ce pâté aux prunes, c'est absolument divin.
Et on va vous emmener aussi dans une magnifique distillerie. Ah oui. On est chez Combier.
Oui. Alors Combier, c'est la plus ancienne distillerie artisanale du Val-de-Loire qui est encore en activité. En 1834, Jean-Baptiste Combier a créé son fameux triple sec, l'original Combier, liqueur réalisé à base d'écorce d'orange douce et amère. Et depuis, la distillation dans les alambics en cuivre du 19e n'a jamais cessé. On fait aussi du guignolet d'Anjou, du pastis d'antan, des crèmes de fruits, des sirops de fruits, genre orange, pêche, fraise, grenadine, tout ça artisanalement, c'est magnifique.
Louana, un des derniers produits qu'on rapportera de notre périple, ce sera sans doute le crémé d'Anjou.
Absolument, spécialité crémière. Et alors, c'est un mélange des crèmes fraîches AOP fouettées, c'est très simple, et des blancs d'œufs battus en neige et du sucre. Alors, on retrouve une texture très crémeuse, légère, suave. D'ailleurs, le grand critique gastronomique Kournoski l'avait nommé le régal des dieux. Alors, elle peut être parfumée soit à la vanille, au citron, on peut rajouter aussi des feuilles de menthe fraîches. On peut l'agrémenter d'un coulis de fruits rouges ou des fruits frais, bien sûr. Mais si on veut, parce que c'est simple à la base, les ingrédients, si on veut réaliser les crémés maison, il faut avoir absolument les moules en céramique avec les trous au fond, avec
Allez,
des gaz, et c'est
voilà.
Parfait.
Dans un instant, dans RTL Royal, on vous emmène 51 rue Saint-Nicolas, à Saumur. Ah vous allez découvrir une adresse absolument incroyable. Nous allons pousser la porte de la charcuterie Girardot. Alors, je vous raconte pas, pied de cochon, foie gras, jambonneau, andouillette, enfin, ficelle, pâté. Bref, si vous êtes vegan, ça risque de piquer un peu. Vous revenez peut-être dans un instant. A tout de suite sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, nous allons pousser la porte de la charcuterie Girardot dans le Saumurois. On en parle depuis très très longtemps. C'est encore une fois une histoire de famille. 51 rue Saint-Nicolas, la charcuterie Girardot où nous attend Sébastien. Dans la famille, j'appelle Sébastien. Bienvenue Sébastien Girardot.
Bonjour.
Bienvenue sur
RTL. Bonjour Sébastien.
Je disais à Saumur et ailleurs, hein, parce que Gérard Girardot, votre père, a toujours été considéré, on va le dire, hein, comme le pape des charcutiers traiteurs à l'ancienne. C'est bien, c'est facile, quand on reprend la boutique, ça ne met pas de pression, j'imagine.
Non, ça met un tout petit peu de pression, mais bon.
Bah oui, je
les
pense.
Les gens attendaient la relève, de toute façon.
Elle est bien assurée. On ne va pas se mentir, Sébastien, votre père est à la retraite aujourd'hui. Est-ce qu'il vient encore un peu à la charcuterie? Est-ce qu'il jette un œil, comme on dit de temps en temps?
Alors, officiellement, mon père devrait être à la retraite depuis une quinzaine d'années, mais évidemment, il est toujours employé, salarié de la maison, et il est là tous les matins. Alors, un peu moins qu'avant, hein. Maintenant, il n'est plus là à 7h du matin, mais à 9h30, 10h, il prend un petit rythme sympathique, et puis bah, il m'a laissé les commandes de la maison.
Qu'est-ce qui fait la singularité de la maison Girardot? Parce que il y a les poncifs habituels, on dit oui, voilà, ce sont des histoires de famille, on est les garants d'une tradition, etc. Mais chez vous, franchement, ce ne sont pas des lieux communs, c'est la vérité.
Non, ça rigole pas. Non, la cuisine, la tradition gastronomique française, chez nous, c'est plus qu'une histoire de famille. Hein. C'est presque une croisade, la croisade du bon goût et la
c'est
tradition.
Joli.
On adore.
Ah, j'aime bien.
on s'attache à garder des recettes que les gens connaissent ou ont connues dans leur enfance. Ça va être, je sais pas moi, du lièvre à la royale, une estouffade de bœuf bourguignon, une bonne estouffade d'anguille au vin rouge, des choses comme ça. En plus de toute la charcuterie traditionnelle, on s'attache à garder cette tradition et refaire découvrir des saveurs qui sont un petit peu mis de côté, parce que bon, c'est des recettes qui ont été mis un petit peu de côté depuis quelques années quand même.
C'est terrible parce qu'on observait le fait que le charcutier traiteur, ça a toujours été un des incontournables des bourgs et des villages de France. Il y a le charcuterie, il y a le postier, il y a la poste, il y a le boulanger. C'était des lieux où on socialisait, on s'y retrouvait, on discutait. Et pourtant, aussi étonnant que ça puisse paraître, les charcutiers disparaissent en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, les charcutiers, les petites supérettes, il y a eu une grande tendance pendant une trentaine d'années à ce que ces magasins disparaissent les uns des autres, hein, même dans les petits villages, enfin, surtout dans les petits villages. Magasins de proximité, oui, ça l'a toujours été. Alors, c'est vrai que depuis le début de la crise du Covid, depuis la pandémie, il y a un regain d'intérêt pour tous ces petits commerces, parce que justement, bon, bah, les gens sont plus trop attirés par les grands ensembles. Ça, c'est principalement dû à la crise du Covid, mais ça nous a ramené de la clientèle qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en plus de conforter notre clientèle habituelle qui vient depuis des années. Donc on a renoué avec cette tradition. Enfin, nous, on l'avait pas, la tradition de discussion, taper le bout de gras dans une charcuterie.
Enfin, je vous l'avais épargné jusque-là. Et Dieu sait si je l'avais préparé. Allez, je l'avais en poche.
L'art de taper le bout de gras dans une charcuterie, bon, ça s'était conservé. Mais disons que là, avec la pandémie, ça s'est conforté. Et c'est très bien. C'est très bien.
C'est peut-être la seule chose positive de cette pandémie, justement, ouais, de retrouver le chemin de ces artisans et du Made in France. C'est vrai que taper le bout de gras chez les Girardeaux, ça veut dire quelque chose. Mais j'ai un souvenir quand même d'un dîner chez Gérard Girardeau il y a quelques années. On est arrivé vers 19h pour l'apéritif. À 23h, on était toujours dans la cuisine pour l'apéritif, alors qu'il y avait des têtes de cochon qui cuisaient dans des grosses gamelles. Et puis on est passé ensuite, on a attaqué les choses sérieuses, avec quelques petits pieds de cochon, évidemment, avec ça, en entrée. Puis après, il y a eu d'autres trucs. Et alors, je me souviendrai toujours de votre maman, Sébastien, qui est arrivée juste avant le dessert avec une grosse cuillère à soupe et qui a mis dans le bec de tous les convives une grosse cuillère de charbon actif pour pouvoir digérer.
Génial.
Deuxième partie du repas, le fromage.
Parce que la suite arrivait, oui. Voilà.
Sébastien, vous savez qu'à chaque fois qu'on mange de la charcuterie avec Jean-Seb, il me raconte cette histoire. Que ce soit sur un parking d'autoroute en plein Cagnard au mois de juillet.
Il y a une autre partie de l'histoire qui n'est pas très racontable.
Non, mais je la connais, mais je vais vous l'épargner pour aujourd'hui. Sébastien, on nous a conseillé de prendre un très grand sac si on venait chez vous. Parce que qu'est-ce qu'on rapporte de chez Girardot?
Tout.
C'est déjà arrivé que des gens venaient chercher une barquette de carottes râpées et repartaient avec un carton de marchandises. Ça c'est déjà arrivé. Chez nous, vous avez toute la partie de la charcuterie. Donc la charcuterie va être traditionnelle, les rillons, les rillettes, le boudin noir, le boudin blanc, toutes les terrines. Alors tout ça, évidemment, c'est fait maison. On a évidemment nos andouillettes 5A, l'andouille, la tête de veau et nos fameux pieds de cochon.
Eh oui. Ah ben voilà.
Les fameux pieds de cochon. Donc ça c'est pour la partie charcuterie. Puis de l'autre côté de la boutique, vous avez tous les plats cuisinés possibles. On en a une vingtaine différents tous les jours. Plats cuisinés de qualité, de tradition, mais pas que seulement.
Et le couscous, le cabillaud avec les gnocchis, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.
Vous parlez sur la page Instagram.
j'ai jeté un coup d'œil avec la complicité d'Anthony qui travaille avec nous et que je salue. Je voulais simplement vous dire, vous parliez de vos pieds de cochon, on parle des mêmes ceux dont Bruno Le Maire parle à l'Assemblée.
Ah oui, exactement. Oui. Si vous avez peut-être vu cette séquence sur notre page Instagram, oui, on a le ministre de l'économie qui parle de la charcuterie Girardot à Saumur et des pieds de cochon en pleine session à l'Assemblée. J'invite nos auditeurs à aller faire un petit tour sur Instagram. La vidéo est en ligne, elle vaut son pesant de cacahuètes.
Voilà, la charcuterie Girardot, où des gens comme Jean Carmet, Claude Chabrol sont passés, c'est vous dire si la maison est une maison de tradition et de bon goût. Voilà. Sébastien Girardot, mille merci d'être passé dans RTL Vous Régale. Prenez soin de vous.
Et à bientôt. Excusez-moi, j'aurais voulu faire juste une toute petite aparté pour remercier notre clientèle habituelle qui nous suit depuis des années et en particulier depuis le début de cette crise. Et un grand coup de chapeau à toute mon équipe, aussi bien en cuisine qu'au magasin, les vendeurs, cuisiniers.
On les salue.
Ces travailleurs-là, sans eux, on ne ferait rien.
On arrive et préparer les cuillères de charbon de bois. Allez, à plus tard. Le défi frigo dans un instant.
10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
La France retient son souffle, c'est le moment clé d'RTL vous régale. Dans un instant, le défi frigo avec Frédéric à Plomeur dans le Finistère. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Très vite, on va vous retrouver dans un instant après l'info, mais c'est un produit de saison que vous nous proposez pour deux recettes originales. Il s'agit de...
l'asperge blanche.
À tout de suite pour le défi frigo, Frédéric. Vous écoutez RTL.
On retrouve Jean-Michel Zeka, c'est l'heure du défi frigo.
Vous l'avez dit, absolument. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Merci Sébastien Rouxel. Prochaines infos tout à l'heure à midi sur Exactement. RTL.
Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
On se retrouve à 11h30 pour refaire la télé sur RTL avec deux invités ce matin. Marc Lavoine, on va parler de The Voice. Et puis Michel Drucker pour son grand retour. C'est demain sur France 2. Il sera avec nous. À tout de suite.
Profitez de votre week-end sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Confiné mais toujours mobilisé, c'est l'heure du défi frigo qui oppose Louana à Jean-Sébastien. Et c'est Frédéric du côté de Plomeur dans le Finistère. On est à côté de Quimper qui nous propose des asperges. J'ai oublié de vous poser une question, Frédéric.
Oui.
Blanche ou verte?
Bah blanche.
Blanche.
Ah ben d'accord, non mais c'est essentiel quand même.
Et pourquoi? Il y a les vertes aussi. Hein
non, mais
nous
Frédéric
avons un producteur,
dit,
la torche.
Mais j'avais pas l'info, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, voilà.
Elle a dit.
Bon, des asperges, vous les cuisinez comment les asperges à la maison d'habitude, Frédéric?
Écoutez, moi j'ai pas vraiment beaucoup de recettes, donc je crois que ça s'appelle une sauce mousseline, une mayonnaise.
Oui, c'est bon.
Et donc je garde le blanc d'œuf que je bats en neige et que j'incorpore donc à ma mayonnaise. Autrement, de temps en temps, ça peut être aussi une sauce hollandaise, mais je vais dire, ça va s'arrêter là.
D'accord. Vous devriez dire, moi j'ai des origines belges, et je peux vous dire que les asperges en Belgique, c'est une religion, hein, à la flamande, avec des œufs, une espèce d'œuf mimosa par-dessus, c'est très très bon. On est en présence là maintenant de deux recettes, à mon avis, très original, proposé par mes deux camarades. On commencerait avec qui, Frédéric?
Avec Louana.
Voilà. Eh ben, c'est parti, 1 minute 30, montre en main. Louana, faites-nous rêver l'asperge.
Alors, Frédéric, vous allez bien sûr peler vos asperges. Vous prenez des échalotes et vous les coupez en deux. On va préparer en fait un tatin d'asperges blanches. Dans une casserole, vous faites réduire du vinaigre balsamique. Quand il devient sirupeux, vous allez ajouter vos échalotes, sel, poivre et vous laissez caraméliser. Vous allez dérouler une pâte brisée. Vous allez la mouiller au pinceau avec de l'eau, sel, poivre et un peu de parmesan râpé. Ça va adhérer grâce à l'eau. On va beurrer un moule à gâteau, on rajoute au fond des noisettes concassées, les asperges, bien les nettoyer parce qu'ils sont crus, et les échalotes caramélisées. On couvre avec la pâte, on cuit dans un four à 200 degrés pendant 20 minutes. Vous attendez pour démouler. Quand vous allez démouler au bout de 10 minutes, vous rajoutez un cerfeuil frais. Vous allez servir ça avec une trévise, elle est des saisons, c'est de la chicorée. Vous faites une vinaigrette, des crèmes avec légèrement moutardé. Vous allez le côté fondant et confit de l'asperge, un peu d'amertume avec la trévise et un peu d'acidité avec cette crème légèrement moutardée. Voilà,
hop, en
moins d'une minute 30.
En moins d'une minute 30. Top chrono,
oui, bravo,
c'est une performance. Performance gommette pour Louana Belmondo et sa tatin d'asperges. C'est pas mal.
J'ai déjà gagné comme ça, moi.
Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Bon face.
Bien, alors, non, mais dans le sens où j'ai gagné. Trois fois.
Mais arrêtez d'enfumer Jean-Sébastien.
Mais non, mais j'ai gagné le temps dans
bien
le
sûr,
temps.
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas mal, ça donne envie, hein, cette tatin d'asperges. Alors,
bon.
Attention, face à cette recette de Louana.
C'est du lourd.
C'est quand même le gars qui nous a parlé du musée du char d'assaut, donc à un moment donné, il ne fait pas que dans le détail. Vous êtes prêt, Jean-Seb?
Ah oui, c'est moi toujours.
Allez, ouvrez le feu.
Alors, vous allez prendre les asperges, ce que vous a pas dit Louana, c'est qu'il faut les éplucher deux fois avec un économe.
Et
vous allez les égaliser pour qu'elles soient toutes de la même taille. Vous les mettez en bottes à l'intérieur d'un papier sulfurisé que vous attachez avec un fil de cuisson. Pendant ce temps, vous prélevez le zeste d'un citron vert, d'un citron jaune que vous taillez en lamelles. Vous prenez des branches de citronnelle, 3-4, que vous allez séparer les filaments de ces branches. Et puis des feuilles de laurier. Vous mettez vos zestes, votre citronnelle, vos lauriers à l'intérieur de cette botte d'asperges que vous posez dans une cocotte en fonte. Vous allez mettre au fond de cette cocotte 150 g de beurre qui va fondre tout doucement. Et pendant 2 heures, à feu super doux, de toute manière on n'a pas grand chose à faire d'autre, on est confiné. Vous allez avec une grosse cuillère arroser vos asperges régulièrement. Il faut que le beurre soit juste mousseux. Et vous les arrosez comme ça toutes. Et vous les arrosez comme ça. Et vous les arrosez comme ça. Et alors, vous aurez le bourgeon qui sera cru et chaud, la tige qui sera fondante, et vous allez découvrir l'asperge d'une manière totalement nouvelle. Ça va être un peu caramélisé au fond, et ça va être divin, parce que croquant, moelleux, et caramélisé au fond, avec des saveurs de citron, de citronnelle, de laurier. Bon,
le bourgeon cru, la tige fondante.
Oui.
Et voilà,
je savais pense que ça vous ferait rêver tout
je
ça.
Je pense
complètement, ça me fait totalement rêver.
Sauf que je sais pas du tout, je sais pas du tout comment on peut intituler cette recette, Jean-Sébastien. Bah, c'est quoi? C'est asperges au beurre, à citronnelle.
Asperges trois cuissons.
Des asperges à la verticale avec du de la citronnelle et du citron.
Voilà. Et ben voilà, une asperge à la verticale. Parfait. Bon, je voudrais pas être et à votre place, Frédéric.
J'adore la citronnelle. Donc du coup, je vais prendre la recette de Jean-Sébastien.
Oh, il l'a fait.
Vous aimez quand c'est pas trop cuit l'asperge, en fait.
Frédéric,
bien sûr.
L'asperge à la verticale de Jean-Sébastien qui l'emporte haut la main aujourd'hui. Et grâce à cette botte d'asperges, Frédéric, nous allons vous envoyer là où vos papilles vont s'éveiller. Écoutez bien, nous allons vous envoyer avec la personne de votre choix à Caen-la-Mer, en Normandie, région réputée pour sa gastronomie. À Caen-la-Mer, il y a de très bonnes adresses gastronomiques, des spécialités, de magnifiques marchés, des événements gourmands. Et il y a aussi une des plus belles adresses de Normandie où vous irez dîner puisqu'il s'agit du restaurant Yvan Vautier à Caen, le resto d'un chef exceptionnel. C'est une étoile au guide Michelin, trois tocs chez Go Emilio. Ils vont vous faire découvrir ce que la Normandie fait de meilleur. Alain Vautier va vous proposer un savant mélange entre terre et mer qui s'harmonise dans ses plats et qui met à l'honneur sa Normandie et ses producteurs locaux. Et puis vous savez quoi? Après le restaurant, vous passerez une nuit à l'hôtel 5 étoiles d'Yvan Vautier.
C'est royal. Super.
Oh là. Il rouvre demain, j'espère.
Ah bah, ça, ce sera évidemment
pour vous aussi et pour moi.
Dès que possible, c'est valable jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Ça va être un week-end exceptionnel pour découvrir la destination de Caen-la-Mer, la ville de Caen, son bord de mer à proximité. Vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence, Frédéric. J'adorerais être vous.
Ah bah écoutez, oui. Je serais contente d'être moi-même.
Et tout cela grâce à une botte d'asperges à la verticale. Elle est pas belle l'histoire?
Excellent.
Vous avez quand même bien fait de nous appeler ce matin au 3210. C'est sympa d'être avec nous le samedi matin, Fred.
Ah bah écoutez, oui, vous nous faites saliver de toute façon tout le temps, donc déjà vous nous faites saliver rien qu'avec vos émissions, et en plus là avec ce séjour, mais c'est magnifique, c'est grandiose quoi.
En tout cas, profitez-en. Je ne sais pas qui vous emmenait là-bas, mais cette personne, il a beaucoup de chance, il s'appelle
Eric
et Frédéric, vous êtes les invités d'RTL, vous régale, on vous embrasse et à très vite.
Merci Frédéric.
Merci beaucoup.
Au revoir Frédéric.
Merci, très bonne journée à vous. Au revoir.
Allez, merci. Dans un instant, tiens avant ça, je vous rappelle, hein, pour le défi frigo de Louana et de Jean-Seb, très facile, 3210 pendant toute la durée de l'émission, 64 900 par SMS avec le mot régale. Je rappelle que vous avez encore un petit quart d'heure pour nous appeler en vue du défi de la semaine prochaine par exemple. Donc n'hésitez pas, 3210 par téléphone, on se retrouve dans un instant avec l'ambassadeur d'RTL vous régale, un ambassadeur à vocation équestre. On vous en parle après les frangines. Devenir quelqu'un sur RTL.
Dans leur prison dorée, des géants de ce monde construisent en papier des chimères et des bombes. Dire que petit enfant on rêvait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Une place. Ce quel qu'en soit le prix, y a pas de règle, hélas. Mais qu'a-t-on réussi quand on tait notre audace et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace? Qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien.
respirer, j'ai mon cerveau qui crève. Les écrans de fumée ont enfermé mes rêves. Dire que petit enfant voyait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien.
Devenir quelqu'un, le tout nouveau titre des Frangines, premier extrait de leur deuxième album prévu d'ici l'été, les Frangines sur RTL. Dans un instant, on file direction le cadre noir de Saumur, on nous attend le colonel Patrick Tesserinck. A tout de suite dans RTL vous régale.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Jade, vous pensez qu'il y aura combien de paires de lunettes, Marc Lavoine, ce matin dans notre studio?
Si j'ai bien compris, il y en a trois. On va voir.
Bah écoutez, on va bien se voir au moins. Hein. Marc Lavoine est avec nous à partir de 11h30 pour refaire la télé. On parle de The Voice, bien sûr. A tout de suite.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Prestige, exigence et tradition, c'est l'un des lieux les plus prestigieux du monde équestre. Bienvenue mesdames et messieurs dans RTL vous régale au cadre noir de Saumur. Et nous y accueillons le grand dieu, le colonel Patrick Tesserinck. Bonjour colonel.
Bonjour.
37e écuyer en chef. Je vous taquine en disant le grand dieu parce que je sais que c'est une appellation que vous assumez pleinement, même si on ne prend pas ça au sérieux, on est d'accord?
Oui, oui, vous savez, c'est plutôt voir ça, c'est une blague de potache à l'époque où les jeunes officiers étaient en admiration devant leurs écuyers. Il y avait la reprise des écuyers, c'était la reprise des dieux et à leur tête le grand dieu. Voilà, mais on est à ce niveau-là.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une reprise ?
Une reprise, c'est en fait un moment collectif où les écuyers présentent le travail avec leurs chevaux.
C'est ça.
Et donc tout se passe, voilà. En reprise derrière l'écu en chef.
Mon colonel, vous êtes notre ambassadeur aujourd'hui. Les Saumurois, c'est rien de le dire, sont fiers de leur cadre noir et de ses hommes. C'est l'histoire d'une ville, en fait, l'histoire du cadre noir.
Ah, le cadre noir, oui, est historiquement accolé à la ville de Saumur depuis, je crois, 1771. Donc, c'est vraiment très imbriqué.
Oui, mais c'est surtout qu'il a contribuer à populariser la ville de Saumur dans le monde entier. On connaît Saumur partout grâce à vous.
Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, si vous allez par exemple aux États-Unis, vous dites cadre noir, et on vous répond ah, Saumur. Donc c'est employé l'un comme l'autre. Cadre noir égale Saumur et réciproquement.
Mmh. Vous avez déclaré concernant le cadre noir, c'est un plaisir d'être en contact avec les chevaux et avec des gens qui aiment les chevaux.
J'ai dit ça, oui, certainement.
Ouais. Et
oui, oui, parce que quand on est passionné par les chevaux, et on est évidemment très heureux de les côtoyer et de côtoyer d'autres passionnés de chevaux.
Non, mais je disais ça parce que j'avais très envie que vous nous racontiez une journée au cadre noir de Saumur. Ça démarre très tôt, j'imagine. C'est militaire quand même.
On est resté sur des horaires militaires. Oui, on aime bien monter à cheval plutôt tôt le matin. On commence entre 7h30 et 8h. On va dire globalement, la matinée est destinée au travail des chevaux de présentation publique. Et l'après-midi, c'est plutôt le travail des chevaux de sport et surtout les chevaux des élèves, puisqu'on est aussi une école, ainsi que le travail administratif.
Mon colonel, si le cadre noir n'est plus un cadre strictement militaire, on peut forcément faire la comparaison entre la patrouille de France pour l'aviation et le cadre noir pour ce qui est de l'arme de la cavalerie. Vous êtes aussi prestigieux et vous représentez la France véritablement avec tout le savoir-faire, parce que c'est pas seulement des choses, c'est aussi une manière de monter le savoir-faire français.
Oui, c'est l'équitation de tradition française dont on est le principal représentant, est d'ailleurs sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Donc, colonel, alors évidemment, avec toute cette crise sanitaire, on imagine bien que les spectacles, en tout cas une bonne partie d'entre eux, ont été annulés. Je pense que pour l'instant, on n'a pas encore de date de reprise. Vous avez un espoir pour une éventuelle reprise avant l'été ?
On a de l'espoir, voilà, on en est là. On devait reprendre, on vient de reporter donc un gala qui avait lieu en avril, donc à l'année 2022. Mmh. Et puis on va voir, on a un prochain gala mi-juin. Donc là, oui, on a espoir, peut-être sûrement avec des mesures particulières, mais voilà.
J'imagine combien ça doit être difficile, parce qu'on pense qu'il faut continuer à faire travailler ces chevaux de gala, comme vous les appelez, à continuer à les entraîner pour que vous soyez prêts dès que ce sera possible de revenir en piste.
Oui, c'est exactement ça. Et du coup, le fait de ne pas avoir de gala ne nous enlève pas beaucoup de travail, hein, si ce n'est les quelques, j'allais dire, jours vraiment de présentation et puis l'entraînement final. Mais non, on garde les chevaux, on les garde à l'entraînement et c'est ça qui prend vraiment du temps.
Vous préparez aussi les Jeux Olympiques, colonel, pour qui viennent à Tokyo. Là, vous avez des...
Alors, on prépare, oui. On a en concours complet. On a d'ailleurs Thibaut Valette qui devrait être mon successeur, hein, qui se prépare pour les Jeux, oui, tout à fait.
Mon colonel, imaginons que vous acceptiez de devenir notre professeur. Je dis bien imaginons.
Vraiment dès loin, parce que j'ai très peur des chevaux. Moi.
Voilà, vous devenez notre instructeur d'équitation, Alouana, Jean-Seb et moi-même. Il nous faudra combien de temps pour espérer participer à un spectacle du Cadre Noir ? C'est quoi, genre un mois, un an, 10 ans de boulot ? Ou alors c'est carrément mission impossible ?
Disons que...
J'ai la réponse.
À Vienne, on dit qu'il faut 15 ans pour faire un écuyer. Ouais. Mais je pense qu'il faut commencer jeune. Hein. Du coup, ça me paraît difficile. Ouais.
C'est ça. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est trop tard. J'ai compris.
Voilà. C'est un peu ça, ouais. Voilà.
Mon colonel, je vous envie... Allez, musique Van Halen, s'il vous plaît. Allons-y, parce que moi, je vais vous expliquer un truc. Chaque week-end, j'ai avec moi deux bourriques.
D'accord.
J'ai tout essayé. Le mort, une autre bride. Enfin bon, la méthode douce. Rien n'y fait. Il refuse obstinément tous les obstacles que je mets sur leur route. Alors, restez avec nous, parce que hors antenne, vous allez me donner quelques petits tours de passe-passe. Je vais y arriver. Avant l'été, je vais les dresser, vous allez voir. Colonel, on vous remercie d'être passé dans cette émission et on vous dit à bientôt. I can't you see this thing? Bon, Louana, Jean-Sébastien, vous avez bien compris que je ne ferai jamais de vous des bêtes de course, hein, non, des chevaux de concours,
vous l'avez compris.
N'empêche, je propose néanmoins que Van Halen et John soient l'intro de notre prochain spectacle équestre. Je vous le dis franchement, d'accord, ça nous va bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la fin d'RTL vous régale. Merci de passer la matinée sur RTL.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et je vais être tout à fait franc avec vous, en tant qu'aspirant écuyer au cadre noir de Saumur, je vais sortir la baguette. Et ça tombe bien, ça tombe bien.
Mais oui, parce que la baguette de pain vient d'être désignée comme le dossier qui sera présenté à l'UNESCO pour devenir patrimoine immatériel, culturel immatériel de l'humanité. La décision, c'est pour l'automne 2022, donc on a encore le temps d'attendre et d'espérer. En attendant, c'est important dans un pays où les boulangeries ne cessent de perdre du terrain. Il y en a de moins en moins et c'est dommage. Parce que la baguette de tradition, c'est fabuleux. Moi, je vais vous dire juste un truc. Préférez les enseignes où c'est marqué boulanger de France. C'est un nouveau label. C'est forcément très bon. Boulanger de France, c'est devenu une marque de référence.
Nous soutenons la baguette de tradition, évidemment, dans RTL vous régale. On va où, les amis, la semaine prochaine?
Dans le Cotentin, la presqu'île du Cotentin. Joli. C'est magnifique. C'est
vivement beau. Samedi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès 10h15, samedi matin. Et je vous signale que dans un instant, Jade et Eric Dussard, dans On refait la télé, reçoit Marc Lavoine et Michel Drucker pour son retour. Je rappelle que RTL vous régale est à réécouter sur l'application RTL. Très bon week-end et à la semaine prochaine.